Bonjour tout le monde et bienvenue à une balado-diffusion du bulletin GP. Mon nom est Abdou Sall et je vous accueille à l'épisode numéro 154, qui est aussi l'après-course du Grand Prix de Mexico City qui a eu lieu ce dimanche à Mexico City, à l'autodromo Hermanos Rodriguez. Et ça tombe bien parce que on est à l'approche du Grand Prix de Sao Paulo ou Grand Prix du Brésil pour les puristes aussi. Donc, on revient sur ce Grand Prix en attendant la tenue du Grand Prix de Sao Paulo qui a lieu cette fin de semaine, si vous nous écoutez, pour la première fois ce jeudi. Alors, pour parler de ce Grand Prix, j'ai avec moi Marc-André Fortin et Anna Maria Mercado Lopez. Bonjour, bonjour. Comment ça va?
Salut Abdou, ça va bien toi?
Ben oui, ça va bien. Salut Anna Maria.
Salut Abdou.
Comment ça va?
Ça va très bien.
Excellent.
Tout nous a manqué.
Ah oui. Ben écoute, c'est la première fois que je te vois depuis que je suis revenu de vacances. Alors, ouais, ça va être. C'était vraiment la première fois. Alors, et pour ce faire, on va parler de ce Grand Prix de Mexico City. Qui a vu en l'espace de 2 heures Max Verstappen remporter l'épreuve devant Sir Lewis Hamilton, Charles Leclerc sur Ferrari termine 3e, Carlos Sainz 4e, Lando Norris 5e, George Russell 6e, Daniel Ricciardo dans la AlphaTauri à son 2e Grand Prix depuis son retour de blessure 7e, Oscar Piastri 8e, Alex Albon, 9e, et Esteban Ocon, 10e. Normalement, j'aurais fait... en fait, je vais le faire. Donc, je vais y aller successivement. Donc, Marc-André, Anna Maria, je vais vous demander tout d'abord la performance du jour. Et on va essayer de faire ça le plus court possible. Je vais commencer avec Marc-André.
De mon côté, j'irais avec Lando Norris. Je pense que pendant toute la course, il a été constant, a réussi à ramener sa voiture dans les points. On sait qu'il partait très loin. Il a eu aussi beaucoup de malchance lors de la deuxième relance. Ça l'a recompliqué sa position pendant la course. Mais honnêtement, il a vraiment fait une course splendide. Je pense pas qu'il aurait pu mieux faire, même si il est à quelques secondes de Carlos Sainz, mais je pense vraiment pas qu'il aurait pu faire une meilleure performance. 5 points, 10 points, 5e position, 10 points, je pense que c'est parfait pour lui. Et nous sommes tous obligés de donner une mention honorable à Daniel Ricciardo, qui on se demandait à quel point il allait réussir à rester dans les points, de quelle manière il allait réussir à défendre sa position. Très bonne performance pour lui. Il va chercher un gros 6 points pour son écurie. Mais franchement, impressionnant, Ricardo. Là.
Anna Maria, ta performance de ce Grand Prix?
Moi, c'était difficile à choisir entre Lando Norris et Ricardo. Mais moi, c'est plus Ricardo. Parce que pour moi, qu'est-ce qu'il a fait avec un AlphaTauri? Il voulait donner les crédits. Il a réussi à faire une belle performance, et comme l'a dit Marc-André, il ramène 6 points à la maison, et ses premiers points après qu'il est retourné de gros accidents. Et que, pour moi, Lando Norris était super bien, mais Ricciardo, il voulait donner que, je pourrais dire, il n'y avait pas la voiture pour être là, mais il était là.
Okay. Et votre contre-performance de ce Grand Prix de Mexico City, et pourquoi c'est Sergio Perez?
tu nous laisses pas le choix, c'est drôle. Non, mais écoute, si on peut parler de Sergio Perez très, très rapidement, je pense qu'il a ambitionné. Il a voulu aller trop vite. Il avait eu un excellent départ, c'est ça qui est dommage. Je pense qu'il voulait tellement rapidement prendre une position impressionnée devant ses partisans, que je pense qu'il y a une coupure mentale qui s'est faite, puis il a juste oublié que Charles Leclerc était là, puis qu'il y avait des conséquences s'il y avait un contact. C'est malheureux pour lui. Les gens du stade n'ont même pas pu le voir passer. Mais écoute, ça fait partie de la course automobile. Quand tu prends des mauvaises décisions, ça vient avec. Maintenant, reste à savoir quel va être son futur. J'aurais aimé peut-être rapidement une meilleure performance des Alpines. Vous voyez, ils se sont fait quand même le dépasser durant la fin de semaine par Ricardo. Ils se sont fait passer également par Albon. Je pense qu'ils auraient probablement voulu une meilleure performance, mais j'en contiens que ma contre-performance numéro un est Sergio Perez.
Et Anna Maria, as-tu une contre-performance ou bien est-ce que c'est Sergio Perez?
Eh bien, oui, bien sûr, c'est Sergio Perez, mais j'ai un autre à Sergio Perez parce que lui, il a oublié que les courses, il se gagne pas au premier virage. Il n'y a pas d'excuse pour lui, c'est une erreur d'amateur, je dirais comme ça. Et ma contre-performance, Aston Martin au complet, l'équipe.
Ouais.
Ça se peut pas, mais que le développement de la voiture n'était pas là, c'est correct, mais qu'il arrive au Grand Prix, comme ça, pas préparé, on dirait des amateurs aussi.
Ouais,
c'est une performance digne de quoi de, on dirait à Marussia ou quelque chose comme ça. On peut pas accepter ça.
OK, j'irai pas jusqu'à dire que c'est une performance digne de Marussia, mais oui, c'est une contre-performance. Sinon, moment cocasse, est-ce que vous avez retenu un moment cocasse durant ce Grand Prix? Ou un moment qui a retenu votre attention si ce n'était pas cocasse?
Ben, il y a le moment où, je pense que lors de la relance, on avait l'impression que... Moi, en tout cas, moi, ça m'a fait rire de voir que Lando a eu une aussi mauvaise relance dans le cas où il y avait eu quand même un bon départ lors de la première... lors du départ numéro 1. Désolé, ça m'a fait un peu marrer là, de voir le départ de... Il n'y a pas eu de chance, en fait. Il s'est fait un peu coincer par tout le monde. Il a été victime justement de ce temps de réaction qui n'était pas assez rapide. Mais écoute, c'est pas grand-chose.
Ça aurait pu se terminer comme au départ du Grand Prix du Japon avec, je crois que c'était Logan Sargeant. T'es Logan Sargeant?
Ouais.
Ouais. Bon, qui s'était accroché. Bah, donc,
exact. Il a quand même été chanceux. Là.
Ouais. Et toi, Anna Maria, est-ce que tu as un moment cocasse ou quelque chose qui a retenu ton attention durant ce Grand Prix?
Oui, c'est comme... La seule chose, c'est la radio de Ocon, mais c'était même pas drôle.
Ouais, qui disait que... qui disait que je suis derrière eux, que ça va barder ou quelque chose du genre. Ça a fonctionné, mais ça a été quand même long. Donc, ouais. Voilà, donc on a fait un peu le tour. On a parlé de Sergio Perez. C'était super ambitieux pour mener le Grand Prix. Il l'a mené pour, je sais pas, 5 mètres à peu près, même pas là. Mais on va se le dire, c'était de héros à zéro. Cependant, la seule chose que je vais donner à Checo, c'est que ça a été un très bon départ. Rappelons-le, il est parti cinquième et il a profité de l'aspiration des voitures devant pour se ranger au niveau de Charles Leclerc et de Max Verstappen. Par contre, il a fait la même erreur. Il a commis la même erreur que Lewis Hamilton a commise au Grand Prix du Qatar. Donc, je pense qu'il a un peu trop... Il a mal jugé. Et c'est dommage parce que... Moi, je pensais que le Grand Prix de Mexico City allait être peut-être un moment qui allait être le baume de pour ces mauvais Grands Prix, mais malheureusement, il se sort lui-même. J'ai mal pour lui, j'ai mal pour les fans aussi, mais ouais. Malheureusement, c'est de sa faute. D'un autre côté, Max Verstappen est parti troisième et amener le départ, amener dès les premiers virages. Mais c'est, je pense, j'en parlais avec quelqu'un sur Twitter. Et quelqu'un me le faisait aussi remarquer. Partir troisième, c'est littéralement la meilleure place possible sur ce circuit.
Au Mexique, ouais.
Au Mexique, ouais. Parce que t'as quand même une longue ligne droite et ça te permet d'aller chercher de l'aspiration avant de plonger pour gagner des positions. Et c'est le même scénario que Verstappen a répété sur ce même circuit il y a 2 ans.
Ben, la question se pose, est-ce que c'était prémédité de vouloir terminer, de ne pas avoir la pole au Mexique? La question peut quand même se poser dans le sens où, moi, je trouve qu'au Mexique, c'est peut-être l'un des circuits où être à la pole, t'es très désavantagé parce que t'as aucune vitesse. À moins d'avoir un temps de réaction vraiment remarquable, ben, t'es un peu à la merci des autres qui prennent l'aspiration que tu leur procures. Dans le cas de Checo, c'est un temps de réaction de 0.28, si je me trompe pas. C'est excellent. Il était l'autre temps de réaction le plus rapide, je pense, c'était Max Verstappen à 0.23. Donc, c'est là que tu vois que le travail a été bien fait par Checo. Et en plus, ben, tu réussis à avoir l'aspiration des autres. Donc, c'est vraiment étonnant, mais effectivement, il y a eu trop d'ambition là, dans le cas de Checo. C'est très dommage. Je sentais que ça pourrait être un peu comme toi, le Grand Prix de la Rédemption, le Grand Prix qui allait faire la différence dans son mental et tout ça. Là, il doit être complètement détruit, comme tous les fans mexicains qui voulaient le voir performer. Ça m'a aussi fait mal de voir les Mexicains tristes parce que c'est leur héros national, Checo. Ici, on n'a pas le même sentiment d'appartenance envers Lance Stroll. T'sais. Lance Stroll, il se plante au Grand Prix du Canada, on est déçu, mais c'est pas pareil. Mm-hmm. Voilà.
Moi, je comprends, Checo.
Et Anna Maria, ben, justement, on va continuer sur Max Verstappen. Après avoir pris les commandes, il n'a plus jamais été inquiété. Donc, ça a été un classique Max Verstappen. D'ailleurs, je pense que c'est sa 16e victoire de la saison. C'est sa 51e en carrière avec maintenant égalité avec Alain Prost. Mais aussi, je pense, c'est quoi ça doit être sa 5e victoire au circuit de Mexico City. Donc, je pense qu'il y a vraiment un combo Verstappen-Mexico City, ou comme j'aime les appeler, c'est le Grand Prix de Mexico City parce que il a gagné en 2017, il a gagné en 2018, il a gagné en 2021, 2022 et maintenant en 2023. Donc, Verstappen, bon, on sait, il est à l'aise depuis le début de la saison, c'est clair, mais sur ce circuit, il a été tout autant. Et d'ailleurs, je te pose la question. Est-ce que c'était d'abord trop tôt de faire entrer Verstappen?
Mais selon moi, c'était trop tôt. Mais en même temps, l'équipe, il voulait se protéger. Il ne voulait pas un nom de cas. Parce que finalement, la victoire de Verstappen, c'est la meilleure chose qui peut arriver à Pérez dans ce cas-là. Parce que tant que Verstappen il gagne, lui, il n'y a pas de points. C'est moins de points à aller chercher pour Hamilton. Mm. Je pense que oui, c'était trop tôt, mais il fallait le faire. Parce que je pense que dans ce cas-là, il ne pouvait pas risquer.
Et aussi, deuxième question, puis je vais aussi je vais te poser à toi, Anna-Maria, et aussi à Marc-André. Est-ce que s'il n'y avait pas eu ce drapeau rouge après le violent accident de Kevin Magnussen, les choses n'auraient pas vraiment changé dans les circonstances. Hein? Parce qu'il s'est arrêté avant, lors de la voiture de sécurité, et ensuite, il y a eu le drapeau rouge. Mais ça n'aurait pas changé grand-chose, hein, Anna-Maria?
Non, non, je pense que le drapeau rouge, dans ce moment-là, il n'y a rien fait. Je n'ai pas vu aucun pilote comme avantagé dans ce cas-là, parce que tout le monde il faisait ses arrêts comme il faut. Je pense que personne n'était pas vraiment avantagé pour le drapeau rouge. Des fois, on dit, mais oui, il a gagné un arrêt gratuit, mais c'est ça.
Marc-André?
Non, je pense pas que ça aurait changé grand-chose. Tu sais, j'ai écouté la course avec des amis. Puis on se disait, le plan A de... Visiblement, le plan A de Ferrari, c'était de réussir à éloigner le relais le plus longtemps pour tenter de gagner un arrêt au puits. Mais je ne voyais pas comment c'était possible avec la dégradation des pneus des pilotes Ferrari. On le voyait déjà là, que ça s'en venait. Il y avait une belle petite ligne là, sur la roue de Leclerc qui me disait... C'était impossible qu'ils réussissent à retarder énormément leur relais. Même dans le deuxième relais, j'y croyais pas. Donc, imaginez. Donc, non, effectivement, je pense que la seule chose qui aurait pu mettre en danger la victoire de Max, c'était évidemment Ferrari avec leur stratégie, mais je n'y croyais pas. Donc, je pense pas que ça aurait changé grand-chose.
Ah ben tiens, oui. Maintenant qu'on est dans le, on est avec Ferrari, parce que je pense pas qu'il y a grand chose à dire du côté de Red Bull. Je pense qu'on a fait le tour. Mais j'ai envie de vous entendre sur Ferrari parce que j'ai encore des problèmes avec le son. Donc normalement j'aurais mis It's the History of the Ferrari parce que disons côté stratégie, ça a pas été fameux. Et surtout lors du deuxième départ, ça a même été pire parce que Hamilton a été capable de, on en reparlera justement, de se débarrasser de Leclerc avec des pneus médiums usés contre les pneus durs neufs de chez Ferrari. Donc ça a joué sur justement le fait que Charles Leclerc, malheureusement, n'a pas été capable de convertir une pole en victoire, Marc-André.
Effectivement. Je pense que la dégradation des pneus a un rapport dans cette TU. Puis aussi, son départ était vraiment, vraiment pas habile. Il a vraiment eu un mauvais temps de réaction par rapport à ses adversaires. En plus, partant en pole, quand t'as pas un bon, je l'ai dit tantôt, quand t'as pas un bon temps de réaction à Mexico, c'est excessivement difficile. Est-ce que s'il avait réussi à avoir un bon départ, ça aurait été différent. J'ai pas l'impression. Je pense que Max l'aurait quand même rattrapé. Puis là, il aurait été dans de la mauvaise air et tout ça. Et je pense effectivement que les Mercedes avaient un niveau de puissance peut-être meilleur que Ferrari. C'est malheureux pour eux parce qu'encore là, ils connaissaient quand même une bonne fin de semaine. Tu sais, ils avaient réussi à avoir de belles positions dès le départ. Donc, écoute, ils vont trouver la solution un jour. Je ne peux pas croire. Maintenant, quand ça va arriver, ben ça, je ne suis pas devin, je ne peux pas vous le dire. Donc, on va être patient pour les fans de Ferrari, puis on va espérer que les tifosi aient un petit peu d'espoir dans les prochaines années.
Et Anna Maria, il y a eu l'accrochage entre Leclerc et Perez a laissé Leclerc avec une voiture endommagée. Heureusement, la pièce est partie le tour suivant. Mais ils ont eu, avec le drapeau rouge, ils ont eu le temps de vraiment réparer le tout.
Réparer.
Mais ça n'a pas été mieux dans les circonstances pour lui parce que on parle de lui parce que c'est lui le détenteur de la pole.
Oui, mais c'est ça, c'est ce que tu dis, Ferrari. Ça fait longtemps qu'il y a des mauvaises stratégies, mais je pense aussi que Mercedes, côté voiture performance, est plus performante que... Même si Ferrari réussit à avoir la pole, Mercedes il réussit à les devancer dans la course. Parce que Hamilton, il fait une très bonne performance et regarde, si ce n'est pas de Norris, Russell aurait réussi à aller chercher Sainz. Parce que yo pense que le problème de Rosso, c'est que c'était trop difficile. Il était Mercedes contre Mercedes, et que c'était plus difficile à réussir à devancer Norris. Et Norris, c'est pas facile non plus.
Mais
je crois que c'est ça. Ferrari, il y a un handicap et la performance n'est pas là. Mais c'est ça. C'est sûr qu'à un niveau stratégique, c'était toujours son pire. Mais maintenant aussi, la voiture est capable d'aller chercher la pole et aller chercher les chronos les plus rapides. Mais il n'est pas capable de tenir pendant la course.
Ouais. Et ça aussi, ça. Ça a fait mal à Ferrari parce que c'est l'histoire de la saison, la dégradation des pneus. On pensait que ça allait être moins pire et d'ailleurs ça a été le cas avec Haas, eux qui ont aussi des problèmes de gestion des pneus. Nico Hülkenberg, je trouve, s'est mieux débrouillé dans ce cas-ci que les deux Ferrari. Alors, j'ai hâte de voir ce que 2024 va leur réserver. Du côté de Mercedes, dont Lewis Hamilton finit... Donc, c'est une autre belle course pour Lewis Hamilton, mais cette fois-ci, qui compte. Donc, Hamilton finit deuxième et maintenant, colle à la peau de Sergio Perez avec quand même... un retard maintenant de 20 points avec un sprint
et trois
courses restantes. Alors, là, évidemment, les 18 points perdus pour Hamilton à Austin ont fait mal, mais une disqualification, c'est une disqualification. Mais là, à Mexico City, il a prouvé que ça va de mieux en mieux les mises à jour, Anna Maria.
Oui, ça va de mieux en mieux. Je pense que lui, il est capable d'aller chercher la 12e place dans le championnat. Je ne sais pas s'il va réussir, mais c'est tellement bien de voir Hamilton se battre. Parce que même si c'est la 12e place, lui, il serait fier de réussir parce que c'est un gros avance aussi pour la voiture que l'année passée, il allait très, très, très mal. Mais lui est capable d'aller chercher. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Checo, il y a un problème. La différence de 20 points, ce n'est pas beaucoup quand on parle de trois courses, un sprint, et lui qui est dans... un lancer de mauvaise performance comme pilote et que ça a été un peu dur pour Perez. Et je pense que la meilleure chose qui arrive maintenant à Checo, c'est que Verstappen il lâche rien. De que tant que Verstappen il soit capable d'aller chercher la victoire, il empêche Hamilton d'aller chercher beaucoup plus de points. De rester moins.
Et mais aussi aux dernières nouvelles, les pneus médiums de Hamilton n'ont toujours pas lâché. Hein. Sont encore bonnes au moment où on se parle. Donc et c'est ça qui a fait la différence en fait. C'est ce deuxième relais parce que il a été capable d'aller dépasser Charles Leclerc. Et surtout de se créer une avance sans nécessairement s'arrêter parce que, quand j'ai regardé la course au complet et le condensé de 30 minutes, j'ai eu l'impression que, je pensais qu'il allait avoir une chute de performance, mais au final, non, hein, Marc-André?
Ça a été pratiquement un sans faute pour Mercedes et Lewis. Moi aussi, j'avais l'impression qu'on allait avoir une baisse de régime peut-être en milieu de course ou vers la fin. Puis finalement, ils ont gardé le deuxième relais était hyper bon. Ce qui a fait en sorte, comme tu l'as dit, qu'il a pu aller chercher Charles Leclerc puis justement se mettre en bonne position pour, après ça, jouer de la défense s'il devait le faire. Puis écoute, ça a été une bonne course pour eux. Puis, en fin de saison comme ça, d'avoir des bonnes performances, c'est important. Surtout que Mercedes est en guerre avec, est en compétition avec McLaren pour la deuxième position. Il faut absolument qu'ils réussissent à avoir de bonnes performances constantes pour justement y arriver. Mm-hmm. Puis, ça va être payant à la fin, là.
Ah oui.
D'après moi, ils vont réussir. Mais effectivement, ils vont devoir travailler fort. Puis, est-ce que la fin de saison de Mercedes va représenter le début de saison de Mercedes l'an prochain? Ben, on le souhaite tous.
Oui, parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui aimeraient voir une équipe rivaliser avec Red Bull. Et j'ai envie de dire, est-ce que ça va être avec... Ça va être du 2 contre 2 ou ça va être encore un Verstappen-Hamilton? Parce que dans ce Grand Prix, j'ai vraiment trouvé George Russell faible, malheureusement. Et dans les derniers... Tu sais, Anna-Maria parlait de Sainz, ben, de Russell qui se rattrapait Sainz. À un moment donné, oui, mais ensuite, il a été bouffé par Norris et a failli se faire bouffer par Daniel Ricciardo dans le dernier tour. Alors, si le Grand Prix avait duré un tour de plus... Oubliez ça, c'est Ricardo qui finissait devant Russell. Mais ces temps-ci, je crois que le jeune Britannique a de la difficulté. Et malheureusement, à Mexico, ça n'a pas été le cas. Je pense que je l'avais même entendu lors de la retransmission dire se plaindre comme quoi, je pense qu'ils l'ont fait arrêter pour revenir derrière Alex Albon alors qu'il voulait souhaitait revenir devant, donc une voiture en moins. Donc, c'est un peu plus difficile ces temps-ci pour George Russell. Je dirais pas dans l'ensemble de la saison, mais il y a une certaine période actuellement, dont à Mexico City, où c'est compliqué pour notre George national.
Oui, je pense que ça l'affectait. Se fait ramener à la maison, comme quoi après le dernier accrochage, même si Hamilton il a dit ben, c'est ma faute, je pense que des mots se sont dit, Hamilton il se bat pour la deuxième position, mais lui il faut pas qu'il interfère avec son coéquipier. Je pense que ça le fait très mal.
Mm-hmm. Et on l'a vu aussi, autant aux États-Unis, ça a été, désolé, ça a été horrible dans les standards de Mercedes de son côté. À Mexico, c'était moins pire, mais encore là, il y avait quelque chose qui fonctionnait pas, Marc-André.
Merci.
Marc-André.
Effectivement, j'ai eu de la misère à ouvrir mon micro. Il y avait quelque chose qui fonctionnait pas, puis je commence pas à baisser mes espoirs envers Russell, mais ça fait quelques performances, ou du moins l'année est pas facile pour lui. Je pense toujours qu'il y a les capacités pour devenir un champion du monde, mais ça reste que je trouve qu'il est beaucoup moins intense, puis désolé de l'expression anglaise, là, mais clutch qu'il y a quelques semaines, quelques mois, et même l'an dernier. Je suis pas inquiet dans son cas. Je pense que ça va revenir. Mais c'est certain qu'actuellement, je le sens moins crédible, mettons, pour rivaliser avec les meilleurs s'il avait la voiture, mettons.
Parce que moi, je pense que Russell aurait vraiment pu faire mieux. Ça, on va pas se le cacher. Mais je dois dire, il s'est fait bouffer par Lando Norris, tout cru. Et d'ailleurs, c'est là où je m'en allais, chez McLaren, parce que Norris a vraiment fait une course magnifique. Et je dirais, c'est son meilleur relais en Formule 1. Depuis Australie 2019, c'est un de ses meilleurs relais. Parce que oui, le départ, tu en as parlé, je ne sais pas, c'était toi, Marc-André, ou Anna-Maria qui parlait du départ de Lando lors de la...
C'était moi,
Marc-André. Ouais.
Dans la deuxième relance, c'était un peu compliqué, mais il a été capable de gagner du terrain. Et par contre, moi, je me pose la question, s'il n'avait pas commis une erreur en qualification samedi à Mexico, est-ce que il aurait été sur le podium Parce que moi, j'ai vraiment trouvé Norris vraiment excellent. Est-ce qu'il aurait été sur le podium?
Pour moi, oui.
Oui, hein?
Si ce n'est pas de la mauvaise calice, lui, il serait retrouvé dans le podium. Et il y a une voiture que McLaren a bien avancé sur le développement de la voiture et Norris il profite bien de ça.
Mm-hmm. Ouais.
Et il a commencé la session dans les mauvais pieds, mais maintenant, lui a la voiture, lui, il sait, est confiant et est capable d'aller chercher.
Oui, ouais, en effet. En effet, et puis ça a été vraiment... et surtout aussi que... Bon, il y a eu le drapeau rouge, mais Norris était sur une stratégie de pneus tendres. Ensuite, il est allé avec les durs. Je ne sais pas s'il voulait faire une course à deux arrêts ou bien juste un et essayer d'y aller jusqu'à la fin, mais disons que le drapeau rouge l'a un peu sauvé dans les circonstances, Marc-André.
J'ai pas compris, ça a bugué.
Donc, je disais, parce que Norris est parti avec les pneus tendres. Ensuite, il est passé, il a fait 22 tours avec les pneus, avec les pneus durs. Ensuite,
ouais,
est rentré au puits pour changer de pneus médium. Et ensuite, a fait le restant de l'épreuve avec ses pneus. Donc, moi, je me demande, est-ce qu'il n'a pas été sauvé par le drapeau rouge et la voiture de sécurité en même temps, Norris?
Probablement que ça l'a aidé. Est-ce qu'il a été sauvé? Ça me semble peut-être un terme fort parce que je pense quand même qu'il aurait pu s'en tirer. Mais oui, moi, je pense effectivement que le drapeau rouge lui a vraiment donné un coup de main. Tu sais, souvent, ça prend juste un petit peu de chance en Formule 1, ça prend pas grand chose hein, pour réussir à avoir une telle course. Puis tu sais, juste à remonter, ben ça, c'est deux remontées en fait, parce qu'il y a un moment où, après la relance, il était quand même 17e en raison de son mauvais départ. Fait qu'il a vraiment dû remonter la pente. Donc, oui, je pense que quand je regarde le portrait général, effectivement, j'ai l'impression que le drapeau rouge lui a donné un petit coup de main. Mais est-ce qu'il aurait terminé peut-être quoi, sixième sans ça? Est-ce qu'il aurait été capable de rejoindre George Russell? C'est une question qu'on peut se poser.
Ben, c'est ça. Il a quand même dépassé Russell. D'ailleurs, c'était un des dépassements de ce Grand Prix. Mais il y a Bernie Collins sur le site officiel de la Formule 1 qui dit, bon, il y avait probablement un potentiel que Norris ait une meilleure position de grille à la relance parce que il s'est quand même arrêté lors de la voiture de sécurité. Mais bon, je sais pas si c'était dans l'éventualité qu'il y a un drapeau rouge parce que quand même Kevin Magnussen a frappé fort dans le virage. Donc, moi, je me dis, et elle dit, Norris aurait pu se retrouver huitième à la place de dixième. Par contre, comme c'était un départ arrêté, il aurait été de toute manière dans la partie sale de la piste et c'est ce qui lui a fait perdre aussi un peu de traction au départ. Donc ça lui a joué des tours. S'il était parti neuvième, fine. Là, il aurait eu peut-être un meilleur départ, mais être sur le mauvais côté de la grille, ça ne l'a pas aidé. Par contre, Oscar Piastri, disons, a eu une course un peu difficile, on pourrait dire, parce que j'ai envie de me concentrer surtout sur l'accrochage avec Yuki Tsunoda dans les derniers tours. Marc-André, est-ce que tu crois que est-ce que c'était un incident de course ou bien il aurait fallu donner une pénalité à un ou à l'autre? Autant à Tsunoda ou à Piastri?
Ça me semblait incident de course. Mais tu sais, encore là, je trouve que c'est le type d'incident où c'est très dur de se positionner. Tu sais, à un moment donné, une course, c'est une course. Ça arrive des accrochages, puis ça arrive que... Mais j'ai senti Piastri peut-être un peu agressif. Mais j'irais là, de à première vue, je trouvais que c'était un accident de course, puis je resterais quand même sur ma position. Mais c'est excessivement serré. Tu sais, c'est des types d'incidents comme ça qui disent, ouais, mais tu sais, ça peut pencher d'un côté comme de l'autre.
Mm-hmm. Anna-Maria?
Moi, il y a à peu près la même chose que Marc-André. Je trouve que c'est plus un incident de course parce que autant Piastri était agressif à défendre sa position, aussi Yugi était impatient. Mm-hmm. Et que je pense que avec la combinaison des deux, il a fait que c'est ça. J'arrive à un incident de course et ça se peut qu'un des deux, c'est le plus perdant. Et dans ce cas-là, c'était Yugi.
OK. Mais moi je pense que si c'est après avoir revu plusieurs fois l'incident, c'est un incident de course. J'allais donner un peu le blâme à Tsunoda parce que il est revenu un peu large, très, très rapidement même sur Piastri, mais je pense que Piastri ne lui a pas, aurait dû prévoir le coup aussi, mais bon. C'était un grand prix correct de la part du jeune Australien. Il gagne quand même. Il marque quand même quelques points pour aider McLaren à consolider cette quatrième place, quand même à 20 points de Aston Martin. Mais je pense que il aurait peut-être pu faire mieux quand même dans les circonstances. On va parler d'AlphaTauri, tiens, parce que je veux me concentrer sur Daniel Ricciardo. Ça, c'était... Je pourrais dire un vintage Daniel, une belle performance de sa part quand même. Il a été dans le coup tout le long du week-end et son tour de qualification en Q3, sans même l'aide de Yuki Tsunoda qui était destiné à partir en fond de grille, a réussi à se qualifier quatrième et devant Sergio Perez.
Fascinant.
Facilement.
Parce que quand j'écoutais la qualification, j'étais comme, OK, ben regarde, il va être quoi? Peut-être 8e, 9e, sans Tsunoda, il réussira pas à se battre pour une des positions dans le top 5. Et finalement, il a complètement tout détruit en faisant un magnifique tour, terminant 4e, débutant la course en 4e position. Puis après ça, ben tout pouvait jouer. S'il faisait de la bonne défense, il pouvait terminer plus haut. S'il connaissait un grand prix plus difficile, allait terminer dans le top 10, mais un petit peu plus loin. Donc, mais tu vois, il y a eu le juste milieu, 7e position, un très beau grand prix. Ne pouvait pas espérer mieux avec sa AlphaTauri dans les circonstances. Mais quelle qualification de Ricciardo! Puis c'est vraiment un pied de nez pour Perez. Est-ce qu'il faut se fier sur un seul Grand Prix pour la suite? Non, pas du tout. Mais ça reste que sa performance doit être soulevée. On a revu le Daniel Ricciardo des bons jours. Puis c'était très agréable de voir ça. Oui.
Anna-Maria?
Mais c'est ça. Je croyais pas. Parce que je voyais Ricciardo, il fait de belles performances pendant toutes les pratiques et je disais, ben, est-ce que ça va donner quelque chose finalement, comme tu l'as dit, Yuki, peut-être il a aidé un petit peu parce qu'il avait déjà fait des tests pendant la pratique pour se faire un peu remorquer, donner l'aspiration pendant la qualif, mais dans la Q3, Yuki n'était pas là. Parce que lui, il a dû le faire tout seul, il a réussi, il était vraiment surpris parce que je ne m'attendais vraiment pas que lui il soit devant l'autre Red Bull.
Mais surtout en course, parce que Ricciardo a été capable de maintenir le rythme. En fait, les deux AlphaTauri, parce que Ricciardo était vraiment dans le top 10 très longtemps pendant l'entièreté de la course. Mais Tsunoda, comme je disais, partait en fond de grille, mais a été capable de revenir dans les points parce qu'il se battait contre Oscar Piastri jusqu'à ce que l'incident se produise. Donc, vraiment, bon, d'accord, Daniel Ricciardo, la 7e place, c'est le meilleur résultat de la saison de l'écurie, mais s'il n'y avait pas eu ce contact avec Tsunoda, on s'entend, ça aurait été de loin la meilleure performance en termes de points de l'écurie italienne. Mais même si tu nous, même malgré l'accrochage, je pense que les deux ont été excellents durant ce Grand Prix. Donc, au moins, et en plus, on sait qu'il y a quand même cette bataille. AlphaTauri veut éviter de finir 9e. Alors, avec tout ça, bon, j'ai un petit problème. Il se retrouve 8e à 12 points de Williams. Alors, c'est quand même un Grand Prix qui... Donc, la performance de Ricardo ainsi que celle de Tsunoda avant son accrochage et ainsi que les réglages, justement, de jouer avec le système de refroidissement parce que c'est quand même de l'air mince à Mexico City étant donné la altitude élevée. Ça a été un très bon week-end pour l'équipe italienne. Marc-André?
C'est encore buggy. Je sais pas qu'est-ce qui se passe.
Donc, tout ce monologue pour rien au final.
Il a trouvé.
Mais vas-y, Anna-Maria, je vais pouvoir poursuivre.
Est sur la hausse aujourd'hui.
Je vais pouvoir poursuivre. Anna-Maria, vas-y.
Oui, vas-y, Anna-Maria.
Oui, oui. Non, mais une belle performance pour AlphaTauri. Je pense que s'il continue comme ça pendant les courses qui s'en viennent, ils ont pris en compte que les deux dernières courses de William étaient comme ça, mais je pense que AlphaTauri aspire à aller chercher et aller chercher William. Ben, la quantité de points, il y a beaucoup quand on sait qu'est-ce que la voiture peut faire, mais il pourrait essayer. Ils pourraient essayer. Ils sont déjà 8e dans le championnat, mais ils pourraient aller chercher William.
Oui, ils peuvent.
C'est que si ça continue comme ça, mais pourquoi pas? Et si Ricciardo est capable d'aller chercher des bonnes performances, on dirait que, je sais pas, Stroll, il a cassé sa main, il est revenu mieux. Ricciardo a fait la même chose.
Mais avec un peu plus de réhabilitation quand même. Donc ça,
oui, c'est ça. Ben, c'est sûr, Ricciardo, il a pris son temps, il a pris le temps pour bien guérir avant de reprendre la voiture. Ben, c'est des choses que Stroll n'a pas fait. Je pense que ça passe facture maintenant.
Et là, au moins, avec tout ça, ben, AlphaTauri donc passe devant Alfa Romeo. Ben, ils sont à égalité avec Alfa Romeo, mais ça a été le meilleur résultat. Mais septième, de toute façon. On va parler de Alpine. Bon. 10e et 11e. J'ai encore un peu de difficulté avec l'écurie. Aujourd'hui. Dimanche a été un peu plus compliqué pour pour l'écurie française, Marc-André.
Effectivement, c'est pas pour rien que je les ai mis dans ma contre-performance. Je trouvais que au Mexique, ça aurait pu être un Grand Prix où l'écurie aurait pu avoir une bonne performance. Moi, je m'attendais à bien mieux de leur part. C'est plate parce que on dirait que cette écurie-là, de temps en temps, tu as de l'espoir, tu vois que l'écurie va dans la bonne direction, puis ensuite tu vois de telles performances, puis tu comprends pas trop qu'est-ce qui s'est passé. C'est malheureux, je pense que c'est vraiment qu'il aurait pu avoir une bonne performance, puis aurait pu travailler dans la bonne direction, mais malheureusement, c'est pas le cas. Ocon ni Gasly m'ont impressionné dans ce Grand Prix. C'est un peu ça qui est venu me décevoir un peu.
Oui. Et quand même, on a eu du mal à... Bon, ils ont réussi à dépasser... Bon, Ocon a réussi à dépasser Hülkenberg pour la 10e place, Gasly pour la 11e, mais ça a été un peu compliqué, Anna-Maria.
Oui, c'est... compliqué. Des fois, ils sont capables d'aller chercher quelque chose, mais la dernière course, il était pas si performante. Je pense qu'ils sont aussi un peu dans les dans la calme parce que il disait bah, la cinquième place pour Aston Martin il est là. Il peut pas aller chercher Aston Martin. Non. Et derrière, je pense que ils n'ont pas d'enjeu non plus de que quelqu'un il va prendre sa sixième place non plus. Et ça fait que on dirait que il n'y a pas de développement comme tal. Il juste fait une course à la fois. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Et des fois les pilotes ils marchent pas.
Mm-hmm. Ouais, ben c'est ça. J'espère que ça va aller mieux au Brésil, mais j'ai peur que ce soit compliqué. Ben tiens, on va parler, parlant de déception, on va parler de Aston Martin. Anna Maria, vous en avez parlé comme déception, Anna Maria surtout, mais Lance Stroll a quand même reçu un magnifique cadeau d'anniversaire, hein, de la part de la FIA. Oui. Partir de la ligne des puits, se faire yéter par un autre fan du Canadien de Montréal, Valtteri Bottas.
Ouais.
Et d'ailleurs, c'était la faute à Bottas cette fois-ci.
Ouais.
Et du côté d'Aston Martin, Fernando Alonso qui abandonne. Donc,
qui abandonne. C'était comme la catastrophe. C'est la douzième fois que Fernando y abandonne.
Ouais.
De suite, la douzième fois de suite aussi que Stroll il sort de la ligne des puits avec tout nouveau, tout changé, pas de setup. Je ne sais pas, c'est pour ça que je ne suis pas capable de faire confiance à Aston Martin maintenant, mais oui, peut-être ils sont capables de réparer la voiture, mm-hmm. mais pourquoi en retard? S'il y avait de nouvelles choses à mettre, pourquoi ils ne l'ont pas fait avant? Mais c'est plus, je ne sais pas, c'est mieux pour moi sortir de 15 que sortir de 20e depuis la ligne des prix. Mais c'est ce que je me dis, c'est ça a l'air que ça performe mieux quand ils touchent, quand les ingénieurs n'ont pas le temps de bien
Et Marc-André, je veux rebondir sur l'occasion aussi, parce que Anna Maria marque quand même un point, le développement chez Aston Martin. Et je me disais ça aussi en revenant du travail aujourd'hui. J'ai l'impression de voir le scénario inverse de 2022.
Exact.
Où en 2022, ça a mal commencé puis ça a bien terminé. Là, cette année, ça commence bien et ça va mal se terminer, même si statistiquement, mathématiquement, Aston Martin est encore dans le coup pour finir quatrième.
Effectivement. Puis, tu sais, on en avait parlé lors de la mi-saison. On comprenait complètement pas qu'est-ce qui s'était passé chez Aston Martin, outre que le développement est complètement minable. Il n'y a pas d'autre terme, c'est minable. C'est pas digne d'une écurie qui est si bien partie. Tu peux pas tomber aussi loin après avoir eu un aussi bon départ. Même McLaren ne réussissent pas à faire pire. T'sais, McLaren, c'est une écurie qui soit ont des bons débuts de saison, finissent mal, ou ont un début de saison comme cette année où on savait vraiment pas où cette écurie allait. Puis finalement, ça a super bien fini. Mais il va falloir qu'il y ait des changements dans cette écurie-là. Tu sais, à un moment donné, c'est bien beau, là. Il y a eu beaucoup d'investissements. On leur laissait la chance aux coureurs. On disait, regarde, ils n'ont jamais eu à gérer autant d'argent. Des fois, tu t'y perds parce que tu veux faire du développement en largeur au lieu de te concentrer sur des éléments X. Et là, ça fait quoi, 4 ans? 3-4 ans qu'ils ont cet argent-là. Donc, ce financement-là, il n'y a plus d'excuses. Il faut que cette écurie-là réussisse à avoir une bonne constance. Puis ça, ben, tu réussis à avoir cette constance avec le développement. Et si ton développement est mauvais, ben, tu ne pourras jamais y réussir.
Et je dois dire quand même que À Mexico, bon, les Aston Martin n'étaient vraiment pas là, donc on les a très peu vus. Oui, Stroll a fait un quand même du progrès en partant de la ligne des puits, mais c'était pas comme à Aston, malheureusement. Donc, c'est dommage, mais il leur reste encore 3 Grands Prix pour passer devant McLaren, mais au rythme où ça va, je pense que c'est la 5e.
Mais non,
et
McLaren finit toujours dans les podiums et Aston n'est pas capable de rentrer dans les podiums.
Ouais. Mais il y a une équipe qui continue de rentrer dans les points et c'est Williams avec la deuxième avec les 2 points d'Alex Albon. Marc-André Albon, je sais pas, on l'a pas beaucoup vu dans la retransmission, mais a fait une bonne course quand même. Et Logan Sargeant,
très bonne course.
Et je dois dire aussi, Logan Sargeant, avant d'abandonner en raison de problèmes de pompe à essence, faisait une bonne course. Avait même dépassé Hülkenberg avant d'abandonner. Donc, je te laisse la parole, mon cher Marc-André.
Très bonne course, pour vrai. Tu sais, c'est rare qu'on est déçu par Albon hein, dans les dernières années. Depuis le début de l'année, c'est lui qui lève l'écurie. C'est lui qui permet vraiment à l'écurie d'avoir une chance à chaque match. Mais franchement, là, c'est impressionnant. Un pilote d'être capable d'avoir d'aussi bonnes performances. Puis, tu sais, c'est vraiment pas quelque chose auquel je m'attendais. Après son départ de chez Red Bull, je me demandais un peu où sa carrière allait aller. Finalement, ben, il m'a surpris avec d'aussi bonnes performances. Puis il continue. Là, c'est vraiment pas de la chance ce qu'il fait en ce moment. Là, c'est du talent pur. Là. De la bonne défense, il attaque au bon moment, il réussit à faire le travail. Franchement, très impressionné, puis il continue de le faire. Là.
Et c'était quand même un bon départ. Il avait fait quand même un bon départ aussi. Donc, il était parti 14e, et je dois dire, ça, c'était vraiment une déception parce qu'il était très rapide lors des essais, mais s'est qualifié 14e. Évidemment, bon, c'est... Il aurait pu se rendre en Q3, mais limite de la piste qui est venu évidemment tout ruiner. Mais il a quand même fait il a quand même bien fait. Puis de son propre aveu, c'était pas un rythme qui était bon. Il en a aussi arraché avec la température de la voiture. Donc, il a quand même fini 9e. C'est le maximum qu'il a pu aller. Mais j'ai envie, Anna Maria, qu'on parle de Logan Sargeant parce que, comme j'ai dit, abandon sur problème de pompe dans le dernier tour, mais aurait pu finir 12e. C'est peut-être pas des points, mais c'est quand même une perf. Il a quand même bien fait dans les 2 derniers Grands Prix.
Oui, bon, ben, il a quand même bien fait, mais de côté, son coéquipier, il est toujours en train d'aller à Q3, de chercher les petits points qu'il a besoin de l'équipe, et c'est là que ça fait mal à Logan.
Mm-hmm.
C'est là qu'il fait mal parce que pendant que lui, ben, c'était très difficile. Et maintenant, la session est presque finie. C'était pas clair s'il reste, s'il s'en va. Et en plus, maintenant, c'est le problème de la voiture, les abandons. Je sais pas.
Mais c'était bien quand même. Je trouve que c'était bien.
C'était bien.
Mais...
C'était bien dans la circonstance.
Exact. Donc, je crois qu'il y avait quand même quelque chose à faire. Donc, je pense que Sargeant, dans ses dernières courses, est en train peut-être de se donner quelques points pour rester en Formule 1 2024. On va parler de Haas parce que moi, je pense que, bon, Kevin Magnussen, très chanceux. Ça a été un violent accident, pas de sa faute d'ailleurs, parce que on l'a vu, c'est juste la surchauffe dans la suspension qui a causé la rupture. et qui l'a envoyé dans le mur carrément. Dieu merci, il s'en est bien tiré. Mais Nico Hülkenberg, pour son 200e Grand Prix, oui, il finit 12e, mais a quand même fait une meilleure course dans les circonstances pour Haas, Anna Maria.
Oui, dans les circonstances qu'il avait perdu quand même une voiture, il a fait quand même une belle course. Hülkenberg, il est capable d'aller chercher, il a la patience, il est capable de faire de bonnes courses, il a un peu la voiture qui l'accompagne. Le problème avec des Haas, c'est que souvent la voiture n'est pas là et ça me laisse un peu inquiète parce que c'est pas la première fois qu'on voit les Haas fait des accidents, des problèmes. Ben, je comprends pas qu'un problème de réchauffe il va casser la suspension. Ça peut arriver, mais il faut que ça soit beaucoup.
Mm-hmm. Ben, c'est ça.
C'est un peu inquiétant. C'est un peu inquiétant parce que c'est dangereux quand même.
Mm-hmm.
De la façon qu'il a lâché, on a vu, c'est complètement fou.
Ouais, ça c'est dommage.
Il s'était pas à la fin de la course, on dirait. Il y avait même pas la moitié, je pense.
Ouais. Et je m'excuse, je dois me corriger. C'est 13e pour Nico Hülkenberg, plutôt que 12e. Parce que c'est Tsunoda qui avait la 12e place. Mais, oui, moi, je pense que c'est quelque chose qui arrive parce que, Avant son accident, on l'a vu aussi sortir un peu large dans le dernier virage. Donc, je pense que c'était quelque chose qui commençait à céder tranquillement, mais Haas a dit qu'elle va enquêter sur ça. Donc,
ou peut-être c'est ça qui n'a pas aidé. La sortie qu'il y a eu, la sortie large qui a un peu endommagé a aidé aussi.
C'est peut-être ça aussi. C'était peut-être un des débuts du problème que ça a commencé à lâcher. Marc-André, pour moi, Nico Hülkenberg a vraiment... Ben, je disais, est-ce que c'est une de ses meilleures performances de la saison, même si ça ne remporte pas de points?
Oui, moi, je pense que oui. Je pense que tu as raison. On n'a pas vu un Nico Hülkenberg avec cette fougue-là depuis le début de la saison, je trouve. Malgré qu'il n'a pas réussi à rentrer dans les points, hein. Mais comme on dit, il y a 10 places. Hein. Fait qu'il faut que tu te fasses faut que tu aies vraiment une bonne course dans les dernières semaines pour espérer entrer dans les points parce que la parité, somme toute, c'est très bon. Elle est très bonne. Donc, moi, je pense qu'en ce moment, on est dans les bonnes grâces chez Hülkenberg. Moi, je trouve que ça a été sa meilleure performance. Puis, tant mieux pour lui. Malheureusement, pour Magnussen, il y a eu des difficultés incontrôlables. Mais écoute, ça fait partie de la course automobile.
Ouais. Ben, moi, je dirais la meilleure performance de Hülkenberg cette saison, ça a été au sprint en Autriche où quand même, il s'est rendu jusqu'en deuxième ou troisième place sous la
pluie. C'est vrai.
Je pense que Mexique, c'est une de ses meilleures courses de la saison, même si ça ne rapporte aucun point. Et malheureusement, avec les gros points que Daniel Ricciardo a rapportés, ben Haas est maintenant bon dernier avec 12 points. C'est 4 points de moins qu'Alfa Romeo. Puis je pense qu'on va pas s'attarder là-dessus parce que, encore une fois, et c'est une tradition bulletin GP, oui. À part peut-être Bottas qui s'est fait voir avec l'accrochage avec Lance Stroll. Ben, on n'a pas grand-chose à dire du côté d'Alfa Romeo. Hein, vous pensez? Non. Vous trouvez ce que vous voulez?
Mais je veux te dire.
C'est juste la seule chose que j'ai dit, c'est que si ce ne serait pas de l'accident avec Bottas, son maestro, il aurait fini dans une...
Pas si pire, c'est-à-dire finir 13e, mais Valtteri Bottas a gâché l'anniversaire de Stroll. Donc, c'est tout ce qu'on peut retenir de Alfa Romeo.
Alors, il a mis la série sur le gâteau.
Ouais, voilà. C'est tout ça. Et donc, Je vais vous donner le classement des pilotes et des constructeurs après le Grand Prix de Mexico City. Donc, Max Verstappen, 491 points, déjà champion. Sergio Perez, 240 points. Lewis Hamilton, à 220. Carlos Sainz et Fernando Alonso sont maintenant à égalité avec 183 points, mais avantage à Sainz avec la victoire à Singapour. Lando Norris est à 169 points. Nice. Charles Leclerc est à 166 points. George Russell est à 151. Oscar Piastri, 87. Et Pierre Gasly, 56. Au classement des constructeurs, Red Bull est à 731 points. Mercedes à 371 points, Ferrari à 349, McLaren 256, Aston Martin 236, Alpine 101, Williams 28, Alfa Tauri et Alfa Romeo 16 points et Haas 12e. Donc, c'est ce qui complète cet épisode du Bulletin GP. On aura un autre après-course, mais cette fois-ci qui aura lieu dimanche après le Grand Prix de Sao Paulo. Et attention, c'est un sprint, donc les qualifications sont un vendredi et le sprint est un samedi. Ne vous en faites pas, c'est le dernier. Donc, on sera là, disponible sur toutes vos plateformes de podcast préférées, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify et autres. Évidemment, on est présent sur Facebook, Twitter, relativement Instagram et Threads, Le Bulletin GP, n'hésitez pas à échanger avec nous, autant sur les pages du Bulletin GP que dans le groupe Facebook La Monoplace, géré comme toujours par les frères Légaré Turcotte. Donc, n'hésitez pas, la porte est toujours ouverte. Alors, Anna-Maria, Marc-André, merci beaucoup d'avoir été là.
Merci à toi, Adou.
Mais ça m'a fait plaisir et un grand merci à Marc-André d'avoir été présent.
Merci à toi, Abdou, c'est toujours un plaisir.
Eh oui. Donc, on se retrouve dimanche pour l'après-course du Grand Prix de Sao Paulo. Et on se retrouve peut-être la semaine prochaine pour un autre épisode, pour l'épisode numéro 155 du Bulletin GP. Mon nom est Abdou Sal et on continue toujours de rouler avec le Bulletin GP. Salut tout le monde!
Salut à tous!